France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mardi 14 avril, bienvenue sur Inter. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 36 articles pour restaurer la confiance des Français dans la justice. Le garde des Sceaux présente en Conseil des ministres son projet de loi avec deux mesures phares. Filmer les procès et raccourcir les délais en généralisant les cours criminelles. Le détail du texte dès le début du journal. Après les autres titres, Agnès.
Et après AstraZeneca, les doutes sur le vaccin Johnson & Johnson suspendu aux États-Unis et retardé en France. La crise sans fin des étudiants, le boom des ventes en viager, les bruits de bottes russes en Ukraine et de 3 pour le PSG qui accède pour la troisième fois de son histoire aux demi-finales de la Ligue des Champions.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Et si Emmanuel Macron était une marque, c'est la thèse d'un jeune philosophe du langage qui développe dans un livre une explication originale du macronisme, de sa conquête flamboyante à l'exercice beaucoup plus difficile du pouvoir. Raphaël Yorca sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, on se retrouve Léa pour le grand entretien de la matinale avec donc aujourd'hui le maire Les Républicains de la ville de Cannes, David Lisnard. Il publie « La culture nous sauvera », c'est aux éditions de l'Observatoire. Et vous pourrez dialoguer avec lui, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Pour la confiance dans l'institution judiciaire, c'est l'intitulé exact du projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres par Éric Dupond-Moretti. L'ex-ténor du barreau, devenu garde des Sceaux, porte là son premier texte qui sera examiné dès le mois de prochain au Parlement. Les syndicats de magistrats déplorent déjà une loi fourre-tout qui ne pose pas la question des moyens. Alors qu'y a-t-il exactement dans ce texte? La possibilité de filmer les audiences, on l'évoquait hier matin sur France Inter, mais aussi, Corinne Audouin, bonjour, un renforcement des droits de la défense.
Oui, on retrouve la patte de l'avocat pénaliste dans la décision de limiter dans le temps la durée des enquêtes préliminaires menées par le parquet où les parties n'ont pas accès au dossier. La loi propose qu'elle ne dépasse pas 2 ans, 3 exceptionnellement. Autre signe envers les avocats, le secret professionnel de la défense sera inscrit dans le code de procédure pénale avec un renforcement des garanties en cas de perquisition ou de mise sur écoute d'un avocat. Du côté de la prison, la loi crée un contrat d'emploi pénitentiaire pour ceux qui travaillent en détention et qui pourront donc cotiser au chômage et à la retraite.
Autre proposition, Corinne, c'est cours criminels pour rendre la justice plus rapidement.
En premier lieu, la généralisation des cours criminels au 1er janvier 2022, actuellement expérimentée dans 15 départements. L'avocat Éric Dupond-Moretti avait vivement critiqué ces cours sans jurés populaires qui jugent les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. À la chancellerie, on précise que le bilan de ces cours est très positif, avec des délais de jugement raccourcis. Et dans le même temps, souligne le ministère, la loi renforce la voix des jurés populaires dans les cours d'assises qui continueront de juger les crimes les plus graves. Enfin, la mesure la plus critiquée, c'est la suppression des crédits de réduction de peine automatique en prison pour une question de lisibilité. Les acteurs du système pénitentiaire craignent un effet pervers avec la suppression d'un levier qui permettait de maintenir le calme en détention.
Merci Corinne Audouin. Et c'est donc sur cette généralisation des cours criminels que les critiques sont particulièrement vives, car il y a un an, celui qui était encore maître Dupond-Moretti y voyait la mort des assises. Écoutez Franck Berton, avocat au barreau de Lille. Ils ont plaidé ensemble, notamment au procès d'Outreau.
Ah, je suis abasourdi. Comment on peut être un jour, il y a quelques mois, le défenseur bec et ongle des cours d'assises, et plusieurs mois après, en être le fossoyeur? C'est hallucinant. La justice rendue par le peuple et au nom du peuple, c'est vraiment le combat des avocats. La justice rendue dans l'entre-soi, c'est pas souhaitable. Tous les crimes dont les peines encourues sont inférieures à 20 ans seraient jugés par des cours criminels. Ça représente au moins 2/3 des faits criminels. Tous les faits de viol, par exemple, comment est-ce possible d'oublier à ce point-là l'exercice de la profession d'avocat? Mais moi, j'avais beaucoup d'espoir lors de sa nomination de la part d'un professionnel qui connaissait bien le terrain et qui aujourd'hui semble piétiner les principes essentiels de notre justice moderne. J'aurais envie de lui dire, Éric, réveille-toi.
Propos recueillis par Mathilde Lemaire. L'alerte enlèvement levée dans les Vosges. Le dispositif avait été déclenché hier à 21h après le rapt de Mia, petite fille de 8 ans gardée par sa grand-mère. L'enfant n'a pas été retrouvé, mais le ministère de la Justice a décidé vers minuit de stopper la diffusion des messages et des photos.
Il est 7h05. Coup dur, Agnès, pour la campagne de vaccination en France.
Les États-Unis ont en effet annoncé hier une pause dans l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson après 6 cas de thrombose sur près de 7 millions de doses injectées. Et dans la foulée, Daniel Messager, le déploiement des doses en Europe a été retardé.
200 000 doses du vaccin Johnson & Johnson viennent tout juste d'arriver en France en cours de déstockage. Les premières injections n'étaient prévues que pour le début de la semaine prochaine. Alors va-t-on les utiliser pour les plus de 55 ans ? L'Agence européenne du médicament va se prononcer. Elle avait lancé une enquête sur des cas de thrombose avec chute du niveau de plaquettes sanguines, très rares mais identiques à ceux de AstraZeneca. Comprendre ce qui se passe exactement avec ces vaccins à adénovirus, on commence à avoir quelques pistes. Xavier Mariette, professeur d'immunologie à l'hôpital Bicêtre.
Il pourrait s'agir d'une réaction auto-immune rarissime et le premier mécanisme, c'est une diminution des plaquettes. Donc on pourrait discuter de mettre en pratique un test très simple qui serait une prise de sang pour mesurer le chiffre de plaquettes, par exemple 5 jours après la vaccination. La plupart des cas sont survenus chez des sujets jeunes de moins de 55 ans.
Mais la campagne de vaccination va de fait se trouver ralentie. Qu'en sera-t-il des 360 000 autres doses de Johnson & Johnson qui devaient arriver la semaine prochaine ? Ce vaccin n'échappera pas à une certaine défiance, la même qui avait entouré AstraZeneca. Le temps de rappeler sans doute que tous les vaccins sont nécessaires pour enrayer l'épidémie.
Et autre annonce hier, la suspension des vols directs entre le Brésil et la France pour freiner la propagation du variant brésilien. Le dernier vol depuis Rio est attendu ce matin à Roissy, où nous serons en direct dans le journal de 8h. Préparer la sortie de crise tout en gérant la pandémie au quotidien, double défi pour le chef de l'État qui présidera demain en fin d'après-midi à l'Élysée. Une réunion sur les protocoles de réouverture des lieux actuellement fermés au public, les musées, les cinémas, les bars et les restaurants. Aujourd'hui, c'est l'impact psychologique du confinement sur les plus jeunes qui sera au cœur de la visite du chef de l'État au service pédiatrique de l'hôpital de Reims. Aide alimentaire et soutien moral, c'est ce que propose depuis le mois d'octobre l'association Linky en région parisienne. Delphine Evenou a assisté à la préparation d'une distribution. Reportage.
Une quinzaine de bénévoles s'apprêtent à remplir les colis du soir, 7 kilos par sac.
Ce soir, l'objectif, c'est à peu près 180 paniers.
C'est la troisième distribution de la journée et c'est ce qu'écoulait l'association sur toute une semaine il y a encore 6 mois. Depuis,
on a des volumes aujourd'hui qui dépasse l'entendement.
Julien Aymon, le président de Linky.
On est à plus de 40 000 repas distribués chaque semaine. 40 000 repas.
L'association a ouvert un troisième lieu le week-end dernier. Déjà près de 1 000 inscrits. Clémence Bénévole.
Le second confinement a réaccentué, a peut-être aggravé, a prolongé cette crise dans la durée. Enfin, l'a ancré vraiment. Peut-être que ça a eu un effet aussi très démoralisateur pour les jeunes.
Alors, des psychologues sont aussi présents pour écouter. Indispensable, explique Julien Aymon.
On sent que la pression, elle est extrêmement forte. Juste avec un regard, juste avec une main sur l'épaule, on voit des étudiants qui parfois s'effondrent et c'est insupportable en fait.
Plus de bénéficiaires, mais aussi plus de bénévoles. Géraud, 19 ans, a rejoint l'équipe le mois dernier après avoir vu les images des files d'attente interminables.
Je vois des gens qui sortent leur carte d'étudiante avec marqué Sciences Po, donc qui université, ça me fait un peu bizarre. Je pensais que tout ça c'était un peu loin de moi, la précarité étudiante c'est quelque chose qui n'était pas forcément à côté de ma porte et en fait je me rends compte que finalement si ça touche tout le monde c'est d'autant plus troublant. Ouais.
Linky a réussi à convaincre de nouveaux partenaires, des chefs, des entreprises mais espère maintenant un coup de main de l'État.
L'État qui entre 2020 et 2024 aura dépensé 424 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Chiffre avancé ce matin par Olivier Dussopt, le ministre des Comptes Publics. Des aides qui ont semble-t-il porté leurs fruits avec des défaillances d'entreprises en recul de 40% l'an dernier, selon le cabinet Altares. Essor du télétravail, désaffection pour les grandes villes, retour du fait maison. La crise sanitaire a bouleversé nos habitudes et développé certains secteurs comme la vente en viager. Pas forcément par cynisme en spéculant sur la mort des personnes âgées, mais les seniors y voient la possibilité d'un revenu d'appoint, Sarah Calamand.
L'idée lui trottait dans la tête depuis plusieurs années. En février dernier, Joël décide finalement de vendre sa maison des Vosges en viager. À 75 ans, elle ne s'imagine pas la quitter et surtout pas en ce moment.
Ben, je préfère mourir. Pour moi, c'est très clair. Je n'irai pas dans un EHPAD. Ma maison, c'est vraiment mon œuvre. J'ai acheté une ruine et j'en ai fait quelque chose de magnifique.
Joël travaille toujours, ce n'est pas le cas de Christine, 84 ans, qui a besoin de soins quotidiens. Elle touche près de 700 euros par mois grâce au viager.
Ça me permet de payer des commissions que l'on me fait, ça me donne des possibilités que je ne pourrais pas avoir. J'aurais même peut-être dû vendre mon appartement pour aller ailleurs, j'en sais rien.
Depuis 2017, la coopérative Viager Solidaire achète des biens et accompagne les vendeurs. Aurélien Pollier, enquêteur social et immobilier, comptait avant la crise 50 à 70 demandes d'achat par mois.
En effet, il y a eu une accélération avec la crise Covid. On est entre 100 et 150 demandes par mois.
Le marché du viager était pourtant déjà en forme ces dernières années dans les agences spécialisées. Stanley Naon, directeur de René Coste.
Si habituellement on était dans une croissance de 5%, l'année 2020 elle tourne plutôt autour des 10%. La crise sanitaire a mis un petit coup de projecteur sur les conditions de vie dans les EHPAD et l'isolement pendant cette crise du Covid.
Cet essor devrait survivre à la crise sanitaire, boosté notamment par le vieillissement de la population.
Le boom du viager, c'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Il est 7h10, les États-Unis et l'OTAN demandent à Vladimir Poutine, Agnès, de faire baisser la tension en Ukraine.
Prétextant des activités menaçantes contre le Donbass, russophone et séparatiste, de la part de l'armée ukrainienne, la Russie a en effet envoyé depuis plusieurs jours déjà d'importants contingents militaires près de ses frontières à l'ouest. Des manœuvres très visibles, destinées aussi aux Occidentaux qui soutiennent le régime de Kiev. Correspondance à Moscou, signé Claude Bruyot.
Deux armées et trois divisions, soit au moins 100 000 soldats russes, ont fait mouvement en trois semaines le long de la frontière avec l'Ukraine. L'objectif pour Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, était de démontrer aux Occidentaux la capacité du pays à mobiliser et à déplacer rapidement des unités en nombre conséquent, aucunement d'aller plus loin vu que le Kremlin a suffisamment d'influence aujourd'hui sur le Donbass ukrainien depuis 2014, sans avoir besoin d'en rajouter. Ces mouvements de troupes, effectués côté russe pour être visibles, ont servi à envoyer des messages, d'abord pour rappeler que le Kremlin n'abandonnera jamais les populations russophones du Donbass si elles sont attaquées, même s'il n'a aucune volonté de rattacher Donetsk et Lugansk à la Russie. Message enfin à l'attention de l'administration américaine pour l'obliger à discuter directement de façon bilatérale d'une désescalade militaire qui concerne le précaré russe, manière de rappeler que Vladimir Poutine ne traite des règles du jeu qu'avec celui qu'il considère comme son équivalent. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Et ils l'ont fait. Et les joueurs du PSG se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré un match difficile hier soir au Parc des Princes, battu 1-0 par le Bayern de Munich, le PSG ne doit sa qualification qu'au succès du match aller, 3-2. Mais Cédric Guillou, le PSG est en train de chasser ses vieux démons en Ligue des Champions.
L'image du Paris Saint-Germain, trop souvent moqué en Ligue des Champions, victime de situations défavorables lors de ses matchs retour, cette image est en train de disparaître. Et pour Bichente Lizarazu, ça a commencé avec la finale de la saison dernière.
Pour la première fois, ils sont arrivés en finale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand bien même ils ont perdu, de vivre une situation de finale. Donc, ils sont en train de construire, en fait, ce que l'on appelle une expérience du haut niveau.
En éliminant coup sur coup le FC Barcelone et surtout le Bayern Munich, tenant du titre, le PSG prouve qu'il a grandi, qu'il a franchi un cap en cohabitant désormais avec les plus grands clubs européens. Le consultant football de Radio France, Jérôme Alonso.
C'est des étapes, comme ce quart de finale-là, qui vont le faire grandir parce que dans les têtes, ça va faire du bien parce que effectivement il y avait ce spectre encore une fois du match retour mal maîtrisé, etc. Et voilà, Paris, je reste persuadé que cette équipe a encore une grande marge de progression.
Cette qualification confirme la nouvelle envergure du Paris Saint-Germain et son envie d'aller encore plus loin, même s'il reste du lourd. Ce sera pour Paris, Manchester City ou Dortmund en demi-finale.
Manchester City et Dortmund qui se retrouvent effectivement ce soir en Allemagne. À l'aller, les Anglais avaient gagné 2-1.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes dans les coulisses du futur film de Jean-Jacques Hano consacré à l'incendie de Notre-Dame de Paris.